Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cher journal, aujourd'hui pour cette deuxième page, je n'ai pas de super bonne nouvelle. J'ai appris qu'il ne me restait plus beaucoup de temps pour tomber enceinte parce que ma réserve ovarienne, c'est-à-dire le nombre de follicules restant fécondables, est presque épuisée. Je peux vous dire que je suis sous le choc. J'étais si fertile avant. Pour mon fils Hugo en 2010, je suis tombée enceinte du premier coup sans me poser de questions. J'ai même fait deux fausses couches sous pilule ensuite. J'avais tellement de follicules que j'avais été diagnostiquée avec le syndrome des ovaires micropolykystiques, que l'on appelle SOPK. Et là, je suis passée d'un extrême à l'autre avec un diagnostic d'insuffisance ovarienne précoce très importante. Je balaye donc l'acronyme SOPK pour celui de IOP comme insuffisance ovarienne prématurée. Pour celles qui connaissent, j'ai une AMH, le marqueur hormonal de la réserve ovarienne, à 0,25, alors qu'à mon âge, à 38 ans, je devrais être à 2 à peu près. La FSH, elle est à 15, alors qu'il ne faut pas dépasser 10, et j'ai quasi plus de follicules d'ovulation à l'échographie en début de cycle. Je peux vous dire que ça fait bizarre de se dire que notre corps ne fonctionne plus, ou plutôt n'assure plus ses fonctions de reproduction, alors que nous sommes en âge de procréer. Je me sens d'un coup un peu vieillie. J'ai pleuré pendant 3 jours. Petite rétrospective de mes stories publiées sur mon compte dédié à mes essais bébés, NG Woman Pregnancy, au moment où je l'ai appris.
Je ne suis pas venue hier soir parce que j'étais pas bien du tout. Déjà, les règles m'ont chamboulé un petit peu, le moral, la fatigue, tout ça. Et ensuite, j'ai reçu les résultats de l'AMH, la réserve ovarienne. Pour moi, en tout cas, elle est extrêmement basse et ça m'a fait un choc. J'ai eu vraiment très peur.
Mais dans mon malheur, j'ai eu un coup de chance. Voici cette fois des extraits de la vidéo YouTube NG Maman 2.0 dans laquelle j'ai expliqué ce signe du destin.
Mes abonnés sur ce compte m'ont demandé un sujet sur la PMA, qui est la procréation médicalement assistée, c'est-à-dire tout un suivi pour pouvoir tomber enceinte, une aide de la médecine, un petit coup de pouce qui parfois fait le plus grand bonheur des uns et des autres, des futurs papas et des futures mamans. Dans le cadre de cette vidéo sur la PMA, j'ai pris rendez-vous avec une gynécologue spécialisée dans un centre de fertilité, celui de Natessia. Donc voilà, mon rendez-vous était calé avec la gynécologue experte en fertilité, docteur Biedamon, du centre de fertilité de Natessia. Entre-temps, je reçois des résultats d'analyse de sang. Et là, je découvre en fait que mes ovaires sont très fatigués. Alors, quand je suis tombée sur ces résultats, j'avais besoin de les interpréter. J'ai contacté mon endocrinologue qui m'a dit « Attention, attention, ne confondez pas AMH basse, FSH élevé et stérilité ou ménopause. » C'est pas encore le cas, mais c'est vrai que c'est pas terrible comme résultat, donc il m'a fixé un rendez-vous. Et puis, la gynécologue spécialisée en fertilité m'a contactée, vraiment au moment où j'avais les résultats sous les yeux, pour pouvoir préparer l'interview. Et là, elle me dit « si vous voulez, notre rendez-vous, on le transforme en rendez-vous pour vous, et puis on fera l'interview quelques jours plus tard. » Et c'est ce qui s'est passé, qu'elle a confirmé le fait que ça allait être difficile pour moi naturellement d'avoir un deuxième enfant, étant donné les résultats sanguins et l'état de mes ovaires. Elle me préconisait quand même une échographie le jour de l'interview, donc 3-4 jours plus tard, pour vérifier justement les follicules, c'est-à-dire ce qui va libérer les petits ovules chaque mois au moment de l'ovulation pour une éventuelle fécondation et un éventuel petit bébé. Et là, on va pouvoir les compter et savoir à peu près s'il m'en reste beaucoup ou pas et à quel point je suis fertile ou pas. Et figurez-vous que l'échographie n'était pas très bonne. Il faut savoir qu'en temps normal, dans chaque ovaire, à chaque cycle, vous avez entre 4 et 10 follicules par ovaire qui se développent, donc en moyenne 15-20. Et moi, j'en avais qu'un. Donc ça vient confirmer un peu la mauvaise nouvelle.
À ce moment-là, j'ignorais encore tout de l'insuffisance ovarienne. Ça me tombait dessus et j'avais beaucoup de questions. Lorsque j'ai consulté la gynécologue spécialisée en fertilité, mais également endocrinienne, le docteur Biedamon du centre de Natessia, je l'ai inondée de questions afin de connaître les tenants et les aboutissants de ce trouble dont souffrent 2% des femmes. J'ai tout enregistré, voici une interview détaillée sur l'IOP qui, j'espère, vous éclairera sur la question. Alors, commençons par le commencement. Dans un jargon médical, qu'est-ce que l'insuffisance ovarienne ?
L'insuffisance ovarienne, c'est lorsque l'ovaire a perdu un petit peu sa réserve. C'est donc la baisse du nombre de follicules par rapport à l'âge.
Et comment on diagnostique l'insuffisance
Alors,
ovarienne ?
Alors, on diagnostique l'insuffisance ovarienne principalement à trois niveaux. Donc, sur le plan clinique, avec des cycles qui se raccourcissent. Sur le plan biologique, par des dosages sanguins d'hormones, dont deux principaux qui sont la FSH et la AMH, en particulier donc la AMH, l'hormone antimullérienne, qui lorsqu'elle est inférieure à 1, signe l'entrée dans l'insuffisance ovarienne. Et le troisième niveau, c'est au niveau anatomique, je dirais morphologique, par l'échographie. Et à l'échographie, on mesure ce qu'on appelle le compte de follicules en trop. Et quand ces follicules sont inférieurs à 5, on considère que la réserve ovarienne est vraiment altérée, diminuée.
Alors justement, par rapport à tout ça, certaines femmes m'ont demandé si le fait d'avoir des règles peu abondantes est un signe.
Le fait d'avoir des règles peu abondantes n'est pas un signe direct. C'est le fait d'avoir des règles peu abondantes, ça veut dire qu'on a une imprégnation souvent en œstrogène un peu faible. Alors, est-ce que ça, c'est suffisant pour avoir une valeur pronostique ? C'est pas majeur.
Voilà. Et par contre, une aménorrhée de plusieurs mois ?
Une aménorrhée de plusieurs mois, là, généralement, ça signe quand même une altération importante de la réserve ovarienne.
Et ce que se posent souvent les femmes, c'est est-ce que le marqueur de l'AMH seul suffit pour déjà se dire qu'il y a une insuffisance ?
Alors, l'AMH est vraiment le meilleur marqueur de l'insuffisance ovarienne, mais nous, on interprète en fonction de l'âge. L'âge est vraiment le deuxième facteur très important, pronostique, c'est-à-dire qu'une même AMH à 25 ou 30 ans, on va dire, et une AMH à plus de 40 ans, ce n'est pas le même pronostic, parce que la différence, elle se situe au niveau de la qualité ovocytaire. La qualité ovocytaire dépend de l'âge. L'AMH, c'est surtout le nombre. Et donc, pour un même nombre, plus la femme est jeune, meilleure sera la qualité. Donc une AMH inférieure à 1 avant 30-35 ans a meilleur pronostic qu'une AMH basse après 40 ans.
Oui, pour la survenue d'une grossesse.
Pour la survenue d'une grossesse surtout évolutive, parce que après, lorsqu'il y a une altération de la qualité, c'est le risque, c'est celui des fausses couches.
Mais je pense qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai ça, parce que j'ai fait deux fausses couches sous pilule quand même. Je suis tombée enceinte facilement, sous pilule,
oui.
Mais fausses couches et œufs clairs, enfin des trucs bizarres.
C'est sûr que ça commence par des fausses couches qui se répètent et puis donc il y a des fausses couches parce que la qualité n'est pas très bonne. Et puis après, l'autre étape, l'étape suivante, je ne parle pas pour vous mais de façon globale, c'est il n'y a plus de grossesse.
Ouais.
Au début, il y a des fausses couches. Et après, la qualité est tellement basse qu'on ne se rend même pas compte qu'il y a une grossesse.
Concernant la qualité des follicules, vous pouvez les voir à l'échographie ou en fait, ce n'est pas tellement mesurable ?
Alors, à l'échographie, ce n'est pas mesurable la qualité. À l'échographie, c'est un critère morphologique, c'est-à-dire qu'on voit le nombre. On voit quand même s'ils ont un aspect bien tendu quand même ou s'ils sont crénelés, ce n'est pas tout à fait pareil. Et puis, donc, l'échographie, c'est plutôt le nombre. Et la qualité, ça serait plutôt les dosages. Parce que le dosage de stradiol, c'est la production par le follicule. Donc, si le follicule produit un bon taux de stradiol, si le stradiol est conforme à la taille du follicule, c'est plutôt meilleur pronostic.
D'accord. Quels sont les marqueurs de gravité ?
Alors, les marqueurs de gravité, je dirais que ce sont un peu les mêmes. C'est-à-dire, plus l'AMH est basse... moins bon est le pronostic. Bon, l'âge est aussi un pronostic, une valeur pronostique très importante. Et puis lorsqu'on est en aménorrhée, l'absence de règles, c'est quand même un signe quand même que l'ovaire a perdu sa fonction cyclique et donc que la réserve est très basse.
Quelles sont les chances de tomber enceinte avec une réserve ovarienne basse, s'il n'y a que ça, entre guillemets ?
Là, ça dépend vraiment du couple, des facteurs pronostiques qu'il y a dans le couple. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une grossesse, on tient compte non seulement des ovocytes, de la qualité de l'ovulation, mais il faut que les trompes soient bonnes, que la glaire soit bonne, que le sperme soit correct. Donc le pronostic, nous, il va dépendre d'un bilan global du couple, ce qu'on appelle le bilan de fertilité. Et puis après, concernant l'insuffisance ovarienne, le pronostic, il va dépendre de la qualité de la réponse. C'est-à-dire qu'il y a des femmes avec un bilan ovarien qui montre une insuffisance ovarienne. Certaines, avec le même bilan, vont relativement bien répondre au traitement, et puis d'autres seront en résistance. C'est-à-dire qu'on a beau augmenter les doses, monter, et ben l'ovaire devient de plus en plus résistant. Et là, lorsque l'ovaire est résistant et qu'on n'arrive pas à avoir d'ovulation, de follicules, c'est que vraiment l'insuffisance ovarienne est installée.
Et qu'est-ce que vous proposez justement lorsque l'insuffisance ovarienne est vraiment poussée ?
Alors, on a quelques alternatives, heureusement. Bon, déjà, une bonne alimentation, toutes les règles hygiéno-diététiques, ça, je ne vais pas y revenir. Mais déjà, on peut mettre ce qu'on appelle l'ovaire au repos, paradoxalement l'équivalent d'une pilule. Alors les femmes, des fois, elles sont un peu surprises, mais vous mettez une pilule, je ne vais jamais tomber enceinte. En fait, on donne plutôt des traitements hormonaux substitutifs, comme un peu comme à la ménopause, finalement. D'accord. C'est-à-dire qu'on va donner des œstrogènes et de la progestérone pour reposer l'ovaire. Donc l'ovaire, il se déconnecte, il se repose. La FSH et la LH de la propre endogène, ce qu'on appelle nous, c'est-à-dire de la femme, va diminuer, donc l'ovaire va se reposer. Et après, on lâche, on lève cette prise d'hormones. Et là, on va stimuler très fort avec de la FSH et de la LH.
Ouais, souvent, ça repart.
Voilà, c'est ce qu'on appelle, on fait une sorte de lune de miel, c'est-à-dire qu'on met l'ovaire au repos sous œstroprogestatif. Et quand on les arrête, on redémarre une stimulation.
Est-ce que, par exemple, l'alcool, le café et également le stress peuvent influer sur l'insuffisance ovarienne ?
Alors, l'alcool, en fait, tout ce qui est stress toxique, certainement, parce que tous les polluants environnementaux, on sait qu'ils peuvent s'incruster, entre guillemets, dans l'organisme, et en particulier sur l'axe, ce que nous on appelle gonadotrope, c'est-à-dire hypophyse-ovaire, que ces perturbateurs endocriniens, finalement, viennent altérer la réponse ovarienne, s'ancrent dans l'organisme, et on pense même que si on a été exposé à ces perturbateurs, pendant la grossesse, lorsque notre propre mère nous portait, que ça peut jouer sur la régulation de notre stock en follicules. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne naît pas tous à la naissance avec le même stock. On pense qu'on a en moyenne 400 000 follicules. Il y a des femmes qui vont naître avec 600 000 et puis d'autres avec 200 ou 100 000. Mmh. Donc du coup, on ne part pas avec le même capital et que peut-être ce capital est régulé dès la vie intra-utérine. Mmh. Et puis ensuite, on a d'autres gènes pas forcément bien connus qui vont réguler ce qu'on appelle la perte de follicules chaque mois, l'atrésie. Et cette atrésie, certaines femmes va être accélérée par rapport à d'autres. Il y a des femmes qui vont perdre très rapidement leur stock et puis d'autres qui vont le maintenir plus facilement. Mais ça, c'est difficilement prévisible. Mais par contre, pour une femme qui a déjà une insuffisance ovarienne, ce qu'on lui conseille, c'est d'avoir des règles hygiéno-diététiques saines, d'avoir une alimentation saine, manger des fruits et des légumes si possible naturel, éviter les pesticides chez soi, utiliser des produits avec des écolabels, faire attention à la cosméto, à tout ce qu'on se met sur la peau, chez les coiffeurs, les teintures, etc. Il faut faire attention un petit peu à ne pas s'exposer autour de soi à des facteurs toxiques, avoir un bon sommeil, si possible. Souvent, lorsqu'on a des troubles du cycle, les hormones, ça agit aussi sur le sommeil. Et puis, concernant le stress, alors évidemment, là, on sait qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, on ne peut pas le nier. D'ailleurs, on parle de maladie psychosomatique, ça veut dire qu'il y a un lien entre le psychisme et le corps. Et l'insuffisance ovarienne et le stress, on pense que oui. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un traumatisme très important et la femme, pendant quelques cycles, va être en aménorrhée, complètement bloquée. Alors, est-ce que c'est vraiment une insuffisance ovarienne ? Pas toujours. Mais si ça survient dans l'enfance, par exemple, ça pourrait, hein, c'est pas vraiment complètement prouvé, mais ça pourrait être un des éléments qui expliquerait les ménopauses précoces, suite à un traumatisme psychologique important avant la puberté.
D'accord, parce qu'on m'a parlé aussi du cortisol qui pouvait venir.
Alors, voilà. Alors, après, pour un stress chronique de la vie adulte, il y a certaines hormones qui sont des marqueurs du stress, comme la prolactine. Alors, lorsque la prolactine augmente, on sait que ça va bloquer l'ovulation et donc mettre en aménorrhée progressivement. Et l'autre hormone, c'est le cortisol. C'est l'axe corticotrope, cortisol, qui lui aussi peut augmenter. Et ces hormones vont interférer avec l'ovulation et plutôt dans le sens de la bloquer.
D'accord. Et si l'insuffisance ovarienne, du coup, dépend d'un stock de follicules qu'on a à la naissance, du coup, c'est prévisible ?
C'est prévisible. Il faudrait faire une écho à toutes les femmes à 18 ans, par exemple, ou à 20 ans, ou doser leur AMH pour savoir quel est leur stock. Il n'est pas impossible que dans la médecine de demain, on fasse ça. Hein. C'est-à-dire qu'on voit toutes les femmes, je ne sais pas, un âge qui serait prédéterminé, mettons 25 ans, qu'on nous demande de faire une écho et un dosage d'AMH, et que celles qui sont à la limite, de prévoir une conservation de leurs propres ovocytes pour plus tard.
Il y en a beaucoup qui le font.
C'est l'autoconservation. Alors, ça se fait dans certains pays comme l'Espagne, où les femmes, à leur demande, peuvent aller conserver leurs ovocytes pour plus tard. En France, la loi de bioéthique est en cours de révision. Ça va peut-être s'ouvrir. En dehors des pathologies, par exemple, lorsqu'on a une chimiothérapie, on sait qu'on va bousiller toute notre réserve ovarienne. Donc là, oui, en France, on congèle les ovocytes.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mais pour des raisons personnelles, pour l'instant, c'est pas autorisé.
D'accord. Et est-ce que justement les FIV et les stimulations peuvent faire baisser et totalement épuiser la réserve ovarienne?
Alors ça, c'est une grande question qui paraît comme ça au premier abord logique, mais en fait, on pense que non. Pourquoi? Au début de chaque cycle, on a à peu près entre 15 et 20 follicules qui rentrent, et un seul ira au bout de l'ovulation. Les autres sont condamnés à disparaître. Mmh. C'est cette fameuse atrésie. Donc, à peu près une vingtaine par cycle. Peut-être que pour d'autres femmes, c'est 30, pour d'autres, c'est 5, en fonction du CFA, le fameux compte de follicules en trop dont je vous ai parlé. Et que, en fait, avec les traitements, quand on fait une FIV, on va maintenir tout le stock. Les 20 qui sont rentrés dans le cycle, on va les maintenir avec les traitements. Et après, on les ponctionne, on les prélève, mais on n'a pas puisé en plus dans la réserve. De toute façon, ceux qu'on a maintenus, ils auraient forcément involué, disparu, naturellement. Donc, a priori, non, il n'y a pas de ménopause avancée chez les femmes qui ont eu des FIV. Par contre, ce qu'on sait moins, je dirais, c'est l'effet inflammatoire de la ponction d'ovocytes, qui peut créer de la fibrose dans l'ovaire. Et puis des pathologies liées à l'infertilité, comme l'endométriose, qui, elle, pourrait ronger le capital ovarien, plus que la FIV en elle-même.
Et est-ce que ça touche tous les âges?
L'insuffisance ovarienne, ben oui, parce qu'on a des ménopauses, entre guillemets, précoces, ou des insuffisances ovariennes. Donc nous, on utilise le terme d'insuffisance ovarienne, il est plus juste. Il y en a à 18 ans. Il y a des femmes qui ont à peine leurs règles et qui sont déjà en insuffisance ovarienne. Plus c'est jeune, plus ça oriente vers une cause génétique, quand même. Comme le syndrome de Turner, où il manque un chromosome X.
Est-ce que la réserve ovarienne, comme ça, peut s'épuiser en 5 ans?
Alors comme ça, c'est difficile de vous dire, parce qu'on pense que chaque femme a sa propre régulation, son propre stock initial et sa propre régulation. Donc ça va dépendre un peu de tout ça. Est-ce qu'il y a un facteur déclenchant qui accélérerait la chute de la réserve? De ce qu'on sait aujourd'hui, en sachant que les choses évoluent, il n'y a pas de preuve d'un facteur particulier. On peut avoir un petit doute sur un stress psychologique important, quand même, parce qu'on sait que les interactions entre le psychisme et le corps, et comment sont régulés tous ces gènes, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, qui entoure, c'est tout ce qui est autour du génome, et qui s'exprime différemment en fonction du contexte environnemental au sens large, dont le stress fait partie, qui peut moduler la régulation de ces gènes, et donc en même temps peut-être celle de l'atrésie des follicules, c'est-à-dire de la réserve ovarienne.
Et c'est irréversible?
C'est irréversible, on peut stopper le processus peut-être. On ne peut pas récupérer un stock qui a disparu. Moi je prends souvent l'exemple du panier de cerises. C'est-à-dire qu'on est avec un panier de cerises qui est plus ou moins rempli, puis chaque mois on pique des cerises dedans, et puis donc ça se vide progressivement, mais il n'y a pas de facteur pour le remplir vraiment. Et que donc la véritable insuffisance ovarienne, c'est quand on en a beaucoup moins dans le panier, je dirais, et puis quand on arrive au stade définitif qui est la vraie ménopause, c'est quand il n'y en a plus, pratiquement plus.
Justement, est-ce qu'une AMH faible signifie ménopause proche?
Plus la AMH est basse, plus la ménopause avance, approche. On sait que les 10 ans qui précèdent la vraie ménopause Par exemple, si on est ménopausé à 52 ans, qui est l'âge moyen en France, on sait qu'à partir de 42 ans, on rentre 10 ans avant dans le processus de l'insuffisance ovarienne. Alors c'est sûr que si on est programmé pour être ménopausé à 42 ans, bah, ça sera à 32 qu'on va commencer à avoir une réserve ovarienne qui va baisser. Donc ça dépend aussi de tout ça.
Et à quel moment décide-t-on de passer au don d'ovocytes ?
Alors, on décide de passer au don d'ovocytes quand on pense qu'on a épuisé toutes les chances avec des propres ovocytes de la patiente, de la dame. C'est-à-dire que lorsqu'on a tout essayé, les stimulations qui ne marchent pas, la mise sous traitement substitutif, qu'on arrête et qu'on redémarre une stim derrière, qu'on fait à faible dose, parce que des fois, il faut des faibles doses, paradoxalement, ou qu'on monte vraiment à des doses très, très fortes, et quoi qu'on fasse, il n'y a pas de réponse, on se dit, ben là, l'ovaire, il est plus stimulable, et là, on passe effectivement au don d'ovocytes. On y passera d'autant plus vite que la femme est âgée, parce qu'on sait quand même qu'en plus, on a ce problème de qualité ovocytaire.
Je crois qu'il y a pas mal d'attentes aussi pour avoir des dons d'ovocytes.
Alors, le don d'ovocytes, déjà sur la région Rhône-Alpes, sur Lyon, c'est 2 ans en moyenne.
C'est ce que j'ai entendu, oui.
Oui, parce qu'il faut trouver des donneuses, et les donneuses, c'est quand même pas fréquent. Que si même vous-même vous amenez une donneuse, elle ne sera jamais pour vous, puisqu'en France, le don, il est anonyme.
D'accord.
Mais il sera croisé, c'est-à-dire que si deux femmes amènent des donneuses, les donneuses seront croisées pour maintenir l'anonymat. Mais la liste d'attente, elle est au moins de 2 ans, entre 1 et 2 ans, en fonction des groupes sanguins, de plein de choses, hein, de la couleur de la peau. Faut trouver une donneuse quand même, un minimum d'appariement. Donc, si vous avez plus de 40 ans, par exemple, comme il y a 2 ans de liste d'attente, vous avez peu de chances d'être prise dans le service public. Parce qu'il faut savoir que le don d'ovocytes se fait que dans le service public.
C'est plus rapide à l'étranger, j'imagine.
Effectivement, on n'a pas de loi européenne. C'est là où on voit les discordances d'un pays à l'autre. Il y a des pays où c'est très facile d'aller faire un don d'ovocytes, comme l'Espagne, hein. C'est ce qu'on appelle le tourisme procréatif, qui est un petit peu interdit en France. C'est-à-dire que nous, en tant que médecins, on ne doit pas solliciter les patientes à aller à l'étranger. Oui. Mais elles le font d'elles-mêmes. Hein.
Oui.
Avec Internet, elles vont sur le web, et elles voient très bien la marche à suivre.
Bah, bien sûr. Quand il y a un désir d'enfant, de toute façon, on est prêt à tout. Hein. Et j'ai une question aussi d'une femme qui se demande si elle-même est atteinte donc, d'insuffisance ovarienne précoce. Est-ce que sa fille peut risquer de l'être également?
Alors, c'est effectivement une bonne question, puisqu'on sait qu'on a des insuffisances ovariennes un peu familiales. C'est-à-dire que même si on n'a pas une cause génétique bien précise, en dehors du turnaire, il y a un contexte familial. Ça doit être sûrement polygénique, comme on dit nous. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs gènes, certainement, qui rentrent en ligne de compte, qui s'expriment plus ou moins en fonction du contexte familial. Et que généralement, l'âge de la ménopause de la mère... Pour la fille, c'est le même âge, c'est assez proche. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance, souvent. Il y a des familles où toutes les femmes sont ménopausées à 40 ans, par exemple. Et des familles où toutes les femmes sont ménopausées à 60. Donc, l'âge de la mère est un bon indicateur. On le demande, en tout cas, nous.
Est-ce que, quand on a une AMH basse et donc une ménopause qui approche, on a aussi les inconvénients qui vont avec, c'est-à-dire les symptômes de la préménopause?
Parfois, mais pas toujours, justement. Des fois il y a la sensation d'avoir des cycles plus courts, de se sentir un peu plus gonflé, d'avoir ce qu'on appelle nous le syndrome prémenstruel, c'est-à-dire avant les règles, c'est un peu différent, enfin, on a des symptômes prémenstruels peut-être plus marqués du fait d'un déséquilibre hormonal.
J'ai maintenant des questions un petit peu plus pointues pour aller un petit peu plus loin. Est-ce qu'une mutation génétique BRCA1 peut créer une ménopause précoce?
Alors, c'est une question qu'on nous demande souvent. Nous, on recherche de toute façon devant une ménopause précoce, d'autant plus que la femme est jeune, on fait un bilan génétique, où les causes génétiques les plus fréquentes, c'est le syndrome de Turner, c'est le syndrome de ce qu'on appelle l'X fragile. Et après, d'autres gènes, par exemple, comme celui qui est impliqué dans le cancer du sein, peuvent être trouvés. Mais bon. Pour l'instant, on ne fait que de la recherche sur le caryotype et l'X fragile.
Que pensez-vous de l'influence de l'épigénétique sur la néo-ovogénèse?
Ouais. À l'épigénétique, on y accorde une importance, enfin de plus en plus d'importance. Avant, on pensait au tout génétique, on pensait que tout était codé par nos gènes, nos chromosomes, etc. Mais maintenant, on s'aperçoit que l'épigénétique prend de plus en plus d'ampleur. C'est-à-dire que l'épigénétique, pour bien comprendre, c'est ce qui va moduler autour du gène son expression. C'est-à-dire que le gène, il peut être présent, il peut être normal, mais il peut être inactif. Et il peut être activé ou inactivé par certains facteurs environnementaux. C'est ça l'épigénétique. Alors évidemment que l'épigénétique, c'est-à-dire que si on prend un pesticide à un moment donné, au moment où l'ovogenèse se mettait en place, au moment où pendant la vie intra-utérine, le stock en follicules était en train de se faire, c'est sûr que s'il y a des interactions à ce moment-là, on peut penser qu'au niveau de l'épigénétique, se jouent beaucoup de choses. Et que... il y a une piste environnementale sur l'insuffisance ovarienne non négligeable. Et qu'en fait, on constitue in utero nos propres maladies à l'âge adulte. Donc, pour la ménopause précoce, ça en fait partie.
D'accord.
Ça en fait partie. Donc, on y peut des fois pas bien grand-chose, si ce n'est que d'améliorer les conditions de vie autour de nous, de stopper ces facteurs épigénétiques, dont une partie peut être réversible. À la différence des gènes qui sont fixes, on ne peut absolument rien faire. Sur l'épigénome, on peut plus se jouer, on peut l'améliorer, on peut le moduler. Donc ça veut dire que si on est exposé à un facteur de risque, comme le tabac par exemple, le fait d'arrêter de fumer, ça va améliorer les choses.
Ok.
Donc oui, c'est une piste très importante.
Et enfin, pour terminer, est-ce que vous avez une jolie histoire à nous raconter d'une femme qui avait vraiment, selon vous, une insuffisance ovarienne catastrophique et qui finalement est tombée enceinte assez rapidement? Enfin, c'est très relatif,
ouais,
rapidement.
On a tous des histoires. Heureusement, il y a ce qu'on appelle les miracles, c'est-à-dire que tout n'est pas prévisible. Et heureusement, même nous, on ne maîtrise pas forcément tout. Hein. Mm-hmm. Et tant mieux, est-ce qu'on peut avoir des bonnes surprises? Ce qui nous arrive régulièrement, c'est les dames qui ont une insuffisance ovarienne. On a tout fait, on a fait tous les traitements. On leur dit, allez vous inscrire en don d'ovocytes. Et pendant la période d'attente, lâchez prise, hop, elle tombe enceinte. Ça, tous les gynécos peuvent vous expliquer ça. On a tous vu. Moi, j'ai, par exemple, dans l'autre sens, mais pour vous montrer que tout est possible, une amie qui était, comme quoi il faut faire attention avec les amis, qui avait, je ne sais pas, mettons 45 ans, qu'en avait marre de prendre sa pilule, qui voulait me dire, est-ce que j'en ai encore besoin? On lui fait les dosages hormonaux, elle avait une FSH au plafond, une AMH effondrée, lui dit, oh ben non, tu n'as plus besoin de contraception, tu es tranquille. Et plouf, elle est tombée enceinte de son cinquième enfant alors qu'elle n'en voulait plus.
En bonne
Donc,
santé, etc.
En bonne santé, etc. Donc, vous voyez... Heureusement, même quand les dosages ne sont pas bons et même quand l'échographie est moyenne, on a toujours des choses qui peuvent se passer.
Des miracles.
Et voilà, des miracles.
Et bon, il ne faut pas non plus attendre le miracle.
Mais par contre, il faut rester lucide sur les champs. C'est-à-dire que nous, on donne un pronostic. On dit, voilà, avec votre contexte, en tenant compte de l'AMH, de l'AFSH, des follicules, de comment vous répondez au traitement, on vous dit, par rapport à la moyenne, vous êtes... 30% au-dessus ou 30% au-dessous.
Et moi, je suis combien de pourcents en dessous? Parce que là, j'imagine bien, je vois bien les chiffres.
Ah, les chiffres, vous avez... non, votre âge est correct. Donc, 38 ans, on est encore dans un... On a une qualité ovocytaire où ça va. L'AMH, elle est à combien?
0,25.
Elle est effectivement un peu basse.
Et le comptage, il n'est pas terrible.
Le comptage, il est moyen. Mais ce qui est bien, c'est que vous répondez au traitement. C'est-à-dire que votre ovaire, il reste sensible aux hormones. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que l'ovaire est sensible, il répond. C'est ça qui est le plus important. Hein. Mais chaque cycle est différent. C'est pour ça qu'on fait des contrôles à chaque cycle. Il y a des cycles qui nous paraissent très bons, qui ne marchent pas. Comme la fois où il y avait eu les deux follicules.
Moi, celui-là, je trouvais... pas de ma faute.
De votre côté, c'était bon. Et puis, il y a des cycles où on a l'impression que ça cafouille complètement. Et moi, ça nous arrive régulièrement. Hein. Et on a des grossesses sur ces cycles-là, qui sont c'est des fois un peu paradoxal, mais il faut quand même rester dans la réalité. Le plus souvent, parce qu'il faut se baser sur les normes, l'idéal, c'est d'avoir une AMH pas trop basse, des cycles réguliers, bien répondre au traitement. Mais pour en revenir à vous, je trouve que vous répondez bien au traitement. L'AMH, et c'est le plus gris dans le tableau, je dirais, c'est l'AMH. Vous fumez pas?
Mais non, je n'ai jamais fumé, bon. Je ne bois pas, je ne voilà.
Vous mettez pas trop de mauvais
produits. Je mange des fruits et légumes bio.
Vous mettez pas trop de mauvais produits sur la peau? Vous faites attention à la cosméto, à la lessive, aux produits d'entretien chez vous. Tout
pas
ça,
trop.
Bah, tout ça,
par contre, la cosméto, j'achète des produits vraiment de très bonne qualité, du Clarins, etc.
Oui, mais il faut des produits...
Est-ce que c'est bon ?
Il faut des produits avec cosméto bio.
Bio ?
Bah, ça évite d'avoir des phénoxyéthanols,
des conservateurs. Je mets de l'eau thermale, moi, des crèmes à base d'eau thermale.
L'eau thermale, c'est sûrement bon.
Je mets que
mais
ça.
Mais il faut se méfier de ces grandes marques... qui sont bien...
MAC, par exemple, moi, je mets pour les maquillages.
Ah oui, je ne connais pas tout, mais il faut bien regarder la composition quand on connaît.
Mais du coup, je vais faire gaffe
EDTA,
maintenant.
EDTA, phénoxyéthanol, qu'est-ce qu'il y avait ? Bon, les fameux parabènes, toutes ces choses-là, il ne faut pas, qu'il y en ait trop dans la cosméto que vous utilisez. Les sphalates aussi, voilà.
D'accord. Eh bien, merci beaucoup, docteur Biédamont.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Je pense que ça va aider beaucoup de monde. Pour ce premier cycle en AMP, avec uniquement le déclenchement à la piqûre Dovitrel, évidemment, ça n'a pas marché pour moi. Je suis donc officiellement entrée en PMA avec plein de choses à vous raconter par la suite, comme les stimulations, les inséminations artificielles, les médecines douces, en fertilité. Je crois qu'on ne va pas s'ennuyer. Et entre-temps, si vous voulez suivre mes aventures au quotidien, n'hésitez pas à venir vous abonner à mon compte Instagram, NGWomanPregnancy. Envoyez-moi vos suggestions de sujets, vos remarques, vos réactions. Cela me sera très utile. Et puis, comme ce podcast démarre, n'hésitez pas à le noter aussi et à laisser des commentaires si vous avez aimé. Ça peut aider. Je referme donc ce journal pour aujourd'hui. À bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.